Ce prêche eut-il de l'effet sur nos concitoyens? Il est difficile de le dire. M. Othon, le juge d'instruction, déclara au docteur Rieux qu'il avait trouvé l'exposé du père Panelou absolument irréfutable. Mais tout le monde n'avait pas d'opinion aussi catégorique. Simplement, le prêche se rendit plus sensible à certains, l'idée vague jusque-là, qu'ils étaient condamnés pour un crime inconnu, à un emprisonnement inimaginable. Et alors que les uns continuaient leur petite vie et s'adaptaient à la claustration, pour d'autres au contraire, leur seule idée fut dès lors de s'évader de cette prison. Les gens avaient d'abord accepté d'être coupés de l'extérieur comme ils auraient accepté n'importe quel ennui temporaire, qui ne dérangerait que quelques-unes de leurs habitudes. Mais soudain conscients d'une sorte de séquestration, sous le couvercle du ciel où l'été commençait de grésiller, ils sentaient confusément que cette réclusion menaçait toute leur vie, et le soir venu, l'énergie qu'ils retrouvaient avec la fraîcheur les jetait parfois à des actes désespérés. Tout d'abord, et que ce soit ou non par l'effet d'une coïncidence, c'est à partir de ce dimanche qu'il y eut dans notre ville une sorte de peur assez générale et assez profonde pour qu'on pût soupçonner que nos concitoyens commençaient vraiment à prendre conscience de leur situation. De ce point de vue, le climat où nous vivions dans notre ville fut un peu modifié. Mais en vérité, le changement était-il dans le climat ou dans les cœurs? Voilà la question. Peu de jours après le prêche, Rieux, qui commentait cet événement avec Grand en se dirigeant vers les faubourgs, heurta dans la nuit un homme qui se dandinait devant eux, sans essayer d'avancer. À ce même moment, les lampadaires de notre ville, qu'on allumait de plus en plus tard, resplendirent brusquement. La haute lampe, placée derrière les promeneurs, éclaira subitement l'homme qui riait sans bruit, les yeux fermés. Sur son visage blanchâtre, distendu par une hilarité muette, la sueur coulait à grosses gouttes. Ils passèrent.
« C'est un fou !»
dit Grand. Rieux, qui venait de lui prendre le bras pour l'entraîner, sentit que l'employé tremblait d'énervement.
« Il n'y aura bientôt plus que des fous dans nos murs !»
fit Rieux. La fatigue aidant, il se sentait la gorge sèche.
« Buvons quelque chose !»
Dans le petit café où ils entrèrent, et qui était éclairé par une seule lampe au-dessus du comptoir, les gens parlaient à voix basse, sans raison apparente, dans l'air épais et rougeâtre. Au comptoir, Grand, à la surprise du docteur, commanda un alcool qu'il but d'un trait et dont il déclara qu'il était fort. Puis il voulut sortir. Au dehors, il semblait à Rieux que la nuit était pleine de gémissements. Quelque part dans le ciel noir, au-dessus des lampadaires, un sifflement sourd lui rappela l'invisible fléau qui brassait inlassablement l'air chaud.
« Heureusement. Heureusement !»
disait Grand. Rieux se demandait ce qu'il voulait dire.
« Heureusement !»
disait l'autre.
« J'ai mon travail. »«
Oui. »
dit Rieux.
« C'est un avantage. »
Et décidé à ne pas écouter le sifflement, il demanda à Grand s'il était content de ce travail.
« Eh bien, je crois que... « je suis dans la bonne voie. »«
Vous en avez encore pour longtemps ?» Grand parut s'animer. La chaleur de l'alcool passa dans sa voix.
« Je ne sais pas. Mais la question n'est pas là, docteur. Ce n'est pas la question. Non. »
Dans l'obscurité, Rieux devinait qu'il agitait ses bras. Il semblait préparer quelque chose qui vint brusquement avec volubilité.
« Ce que je veux, voyez-vous, docteur ?» c'est que le jour où le manuscrit arrivera chez l'éditeur, celui-ci se lève après l'avoir lu et dise à ses collaborateurs « Messieurs, chapeau bas !»
Cette brusque déclaration surprit Rieux. Il lui sembla que son compagnon faisait le geste de se découvrir, portant la main à sa tête et ramenant son bras à l'horizontale. Là-haut, le bizarre sifflement semblait reprendre avec plus de force.
« Oui !»
disait Grand.
Il faut que ce soit parfait.
Quoique peu averti des usages de la littérature, Rieux avait cependant l'impression que les choses ne devaient pas se passer aussi simplement, et que par exemple les éditeurs dans leur bureau devaient être nu-tête. Mais en fait, on ne savait jamais, et Rieux préféra se taire. Malgré lui, il prêtait l'oreille aux rumeurs mystérieuses de la peste. On approchait du quartier de Grand, et comme il était un peu surélevé, Une légère brise les rafraîchissait, qui nettoyait en même temps la ville de tous ces bruits. Grand continuait cependant de parler, et Rieu ne saisissait pas tout ce que disait le bonhomme. Il comprit seulement que l'œuvre en question avait déjà beaucoup de pages, mais que la peine que son auteur prenait pour l'amener à la perfection lui était très douloureuse.
Des soirées, des semaines entières sur un mot, et quelquefois une simple conjonction.
Ici, Grand s'arrêta et prit le docteur par un bouton de son manteau. Les mots sortaient en trébuchant de sa bouche mal garnie.
Comprenez bien, docteur. À la rigueur, c'est assez facile de choisir entre « mais » et « et ». C'est déjà plus difficile d'opter entre « et » et « puis ». La difficulté grandit avec « puis » et « ensuite ». Mais assurément, ce qu'il y a de plus difficile, c'est de savoir s'il faut mettre « et » ou s'il ne faut pas.
« Oui, » dit Rieu.
« Je comprends. »
Et il se remit en route. L'autre parut confus, vint à nouveau à sa hauteur.
« Excusez-moi, » bredouilla-t-il, « je ne sais pas ce que j'ai ce soir. »
Rieu lui frappa doucement sur l'épaule et lui dit qu'il désirait l'aider et que son histoire l'intéressait beaucoup. Grand parut un peu rasséréné et, arrivé devant la maison après avoir hésité, offrit au docteur de monter un moment. Rieu accepta. Dans la salle à manger, Grand l'invita à s'asseoir devant une table pleine de papiers couverts de ratures sur une écriture microscopique.
« Oui, c'est ça, »
dit Grand au docteur qui l'interrogeait du regard.
« Mais voulez-vous boire quelque chose? J'ai un peu de vin. »
Rieu refusa. Il regardait les feuilles de papier.
« Ne regardez pas, »
dit Grand.
« C'est ma première phrase. Elle me donne du mal, beaucoup de mal. »
Lui aussi contemplait toutes ses feuilles et sa main parut invinciblement attirée par l'une d'elles qu'il éleva en transparence devant l'ampoule électrique sans abat-jour. La feuille tremblait dans sa main. Rieu remarqua que le front de l'employé était moite.
« Asseyez-vous, »
dit-il.
« Et lisez-la-moi. »
L'autre le regarda et sourit avec une sorte de gratitude.
« Oui, »
dit-il,
« je crois que j'en ai envie. »
Il attendit un peu, regardant toujours la feuille, puis s'assit. Rieu écoutait en même temps une sorte de bourdonnement confus qui, dans la ville, semblait répondre au sifflement du fléau. Il avait à ce moment précis une perception extraordinairement aiguë de cette ville qui s'étendait à ses pieds, du monde clos qu'elle formait, et des terribles hurlements qu'elle étouffait dans la nuit. La voix de Grand s'éleva sourdement.
« Par une belle matinée du mois de mai, une élégante amazone parcourait, sur une superbe jument alezane, les allées fleuries du bois de Boulogne. »
Le silence revint, et avec lui l'indistincte rumeur de la ville en souffrance. Grand avait posé la feuille et continuait à la contempler. Au bout d'un moment, il releva les yeux.
« Qu'en pensez-vous ? »
Rieu répondit que ce début le rendait curieux de connaître la suite. Mais l'autre dit avec animation que ce point de vue n'était pas le bon. Il frappa ses papiers du plat de la main.
« Ce n'est là qu'une approximation. Quand je serai arrivé à rendre parfaitement le tableau que j'ai dans l'imagination, quand ma phrase aura l'allure même de cette promenade au trot, une, deux, trois, une, deux, trois, alors le reste sera plus facile. Et surtout, l'illusion sera telle, dès le début, qu'il sera possible de dire « chapeau bas ».
Mais pour cela, il avait encore du pain sur la planche. Il ne consentirait jamais à livrer cette phrase telle qu'elle à un imprimeur. Car malgré le contentement qu'elle lui donnait parfois, il se rendait compte qu'elle ne collait pas tout à fait encore à la réalité, et que, dans une certaine mesure, elle gardait une facilité de ton qui l'apparentait de loin, mais qui l'apparentait tout de même à un cliché. C'était du moins le sens de ce qu'il disait quand on entendit des hommes courir sous les fenêtres. Rieu se leva.
« Vous verrez ce que j'en ferai, »
disait Grand. Et tourné vers la fenêtre, il ajouta
« quand tout cela sera fini. »
mais les bruits de pas précipités reprenaient. Rieu descendait déjà et deux hommes passèrent devant lui quand il fut dans la rue. Apparemment, ils allaient vers les portes de la ville. Certains de nos concitoyens, en effet perdant la tête entre la chaleur et la peste, s'étaient déjà laissés aller à la violence et avaient essayé de tromper la vigilance des barrages pour fuir hors de la ville.